Fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez la bienvenue à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine d'information sanitaire. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous écouter sur cette fréquence. Votre émission Santé pour tous va s'attarder aujourd'hui sur la problématique de l'accès aux services de maternité dans les formations sanitaires de notre région. Pour aborder cette thématique, nous recevons dans nos studios M. Lekpa Rotré. Bonjour M. Lekpa et bienvenue dans notre studio. Pouvez-vous s'il vous plaît nous faire une brève présentation de votre personne en nous disant dans quelle formation sanitaire vous travaillez?
Merci une fois de plus pour l'invitation. Je suis, comme vous avez dit, Lekpa Rodrigue, maïeuticien en service au centre médical d'arrondissement de Gazawa.
C'est quoi un maïeuticien?
En termes terre à terre, maïeuticien, c'est juste l'appellation des hommes qui exercent le métier de sage-femme.
Alors, je suppose que dans l'exercice de votre profession au quotidien, c'est pas du tout facile, vu qu'une certaine opinion considère qu'il s'agit d'une profession propre aux femmes. Comment réussissez-vous à surmonter cela au quotidien?
Oui, c'est... vous avez raison. Lorsque on commence ce métier, on a toujours l'impression, on se dit même que c'est lié aux femmes, c'est propre aux femmes, comme vous venez de dire, mais au fil des temps, et dans d'autres régions, on se rend compte que les patientes acceptent plus se faire consulter, même par les hommes. Contrairement à la région dans laquelle nous sommes, où la sexualité est encore plus ou moins tabou.
Quelles sont les raisons pour lesquelles une bonne partie de la population féminine dans notre région refuse encore de faire recours aux services de maternité dans les formations sanitaires?
Les femmes de notre région, l'extrême nord du pays, et peut-être le grand nord en général, ont la particularité de ces femmes, elles ont l'autorité masculine, faible pouvoir de décision dans la prise de parole, dans la prise de qui doit décider pour que j'aille à l'hôpital, faible pouvoir économique. Il y a la culture aussi qui joue, il y a la religion, il y a plein de choses, plein de paramètres. Et le plus vraiment important, c'est la décision de l'homme. Quand l'homme ne veut pas, la femme ne fait pas. Donc c'est l'homme qui doit décider, tu dois partir ou tu ne dois pas partir. La femme peut bien avoir la volonté, mais parfois quand elle n'a pas les moyens et quand elle pense qu'en allant, son mariage sera menacé. Parce qu'on peut même la repudier parce qu'elle a décidé d'aller sans l'autorisation du conjoint.
Alors, à vos partants sur votre expérience, quelle est la raison fondamentale justement pour laquelle le motif que vous venez d'évoquer, notamment celui relatif au fait que les hommes parfois ne donnent pas leur autorisation à leur femme d'aller rencontrer un maïeuticien ou alors d'aller se faire consulter sur le plan prénatal, quelle est la raison selon vous pour laquelle les hommes ont toujours cette réticence-là?
On peut évoquer plusieurs raisons. Et au premier plan, on peut penser déjà même à une ignorance due au fait que la région est sous-scolarisée, du manière générale, et que les femmes en particulier sont encore plus sous-scolarisées. C'est ce qui est à la base même de ce phénomène, parce qu'ils ne comprennent même pas encore l'importance de se rendre dans les structures sanitaires, dans les services de maternité, et de sur quoi, parfois, on y retrouve des hommes. Ça, c'est encore vraiment un calvaire pour eux. Aller se faire consulter devant un homme, un homme va te dire facilement, je ne peux pas accepter que ma femme aille se faire consulter par un homme. Ça, c'est un tabou. C'est vraiment comme un sacrilège.
Dans votre carrière, est-ce que vous pouvez partager avec nous certains cas particuliers auxquels vous avez fait face dans votre formation sanitaire, des cas où des femmes refusent justement, ou alors des hommes qui refusent à leurs femmes de recourir à vos services?
Oui, bien sûr. On a eu... C'est ce qu'on vit au quotidien, s'il faut le dire. C'est vrai que j'ai commencé le travail depuis décembre 2015, mais avec le temps quand même, en 2021, on se dit quand même qu'il y a une nette amélioration parce qu'elles adhèrent de plus en plus, même si ces idées de préconçues qu'ils ont, ah, devant l'homme, je ne peux pas aller me faire consulter par un homme, il faudrait que ce soit une femme. Et parfois même quand c'est une femme, même c'est toujours difficile parce que bon. On n'a pas envie de s'exposer devant un étranger, quel que soit le sexe. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça s'améliore de plus en plus avec les différentes sensibilisations, les différentes éducations qu'on fait. On a l'impression que ça s'améliore de plus en plus. Mais il y a une partie de la population qui essaye de ne pas adhérer à ce qu'on veut.
Est-ce que vous avez déjà eu à perdre des patientes qui, suite à des complications survenues lors d'accouchements à domicile et conduites d'urgence dans votre formation sanitaire, refusent de recevoir des soins?
Oui, on a eu à perdre des patients. C'est déplorable de le dire, mais ça est arrivé. On a eu des cas. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai eu un cas en 2018. Déjà, une femme qui a commencé la consultation prénatale très tardivement, elle est arrivée au troisième trimestre, juste à terme, elle était déjà à terme quand elle arrivait. Elle a commencé une consultation un vendredi et avait une tension très élevée, qui était déjà un signe de danger pour elle. Mais on a détecté ça trop tard, puisqu'elle était déjà à terme. Malgré cela, avec le médecin, avec l'appui du médecin-chef, on a quand même essayé de la mettre sous traitement pour essayer de baisser sa tension. Mais après avoir prescrit, elle n'a pas pris le traitement immédiatement. Elle a attendu, c'est le lundi quand je demandais qu'elle revienne contrôler sa tension, elle m'a dit qu'elle devait commencer le traitement. Oh, très tôt le matin de mercredi, on m'a réveillé du lit parce qu'elle est arrivée en convulsant. Elle s'agitait, ça n'allait pas. Et puis, elle était en même temps en travail. Après avoir stabilisé avec les médicaments qu'on a injectés, j'ai essayé de la stabiliser. Et puis, il fallait qu'on l'opère dans les minutes qui suivent. On a convaincu la famille, mais la femme, elle ne voulait pas. Le déni de la césarienne, elle ne voulait pas entendre parler de ça. C'est comme ça que, pendant qu'elle ne voulait pas entendre, elle faisait le désordre. Elle faisait tout sauf ce qu'on lui demande de faire. En faisant son désordre, elle a donc poussé, elle poussait l'enfant avant que le temps ne soit arrivé. Et c'est comme ça qu'à un moment, j'ai été surpris qu'on m'appelle que l'enfant est en train de sortir. Or, les dégâts qu'elle avait causés à l'intérieur étaient vraiment irréparables. On a fait l'accouchement sans se rendre compte que moi, j'ai pensé à un miracle de Dieu quand elle m'a appelé que l'enfant sortait. Bon, malheureusement, elle s'était rompue l'utérus. Et le médecin, c'est quelques temps après, quand l'enfant est sorti, qu'on s'est rendu compte, puisqu'elle saignait plutôt en interne, on ne s'est pas rendu compte immédiatement. C'est après cela, on s'est rendu compte qu'elle saignait en interne, et puis le temps de l'amener au bloc en cascade et tout et tout. Elle n'a même pas rendu l'âme sur le champ, on a fait même l'intervention. L'autre problème, c'était le refus de donner le sang. Quand on a interpellé la famille, donnez-nous le sang. Ils ont commencé à tourner. Le mari lui-même a refusé. Il a préféré aller à Maroua, acheter le sang, aller à la banque de sang, chercher le sang. Et avec tout ce temps qu'on perdait, elle continuait à perdre le sang. On a fini l'intervention. C'est quand on finissait même déjà l'intervention qu'il est venu avec la première poche. Oh, il en fallait deux. Le saignement ne s'est pas arrêté immédiatement. La deuxième poche a traîné. Pendant qu'il partait encore à Maroua pour chercher. En revenant, la femme était décédée.
On espère que ce témoignage va essayer de conscientiser un peu ceux et celles qui ont encore des idées arrêtées sur les suivis prénatals. Poursuivons notre émission. Monsieur Lekpa-Rodrigue, je voudrais savoir concrètement comment se passe le suivi prénatal? Que recommandent les standards de l'OMS en la matière et quelles sont les différentes étapes?
Bon, selon l'OMS, une femme, dès qu'elle pense qu'elle entre, elle est enceinte, doit déjà immédiatement aller vers les structures spécialisées pour la prise en charge. L'OMS recommande qu'elle doit faire, une femme enceinte doit faire au moins 4 visites prénatales. Au moins 4 visites. Et lorsqu'elle imagine seulement qu'elle est enceinte, elle doit venir parce que il y a des grossesses. On peut penser qu'on est enceinte, pourtant on ne l'est pas. D'un. De deux, on peut être enceinte, mais pourtant la grossesse n'est pas bien localisée. Il faut déjà, dès le départ même, détecter tout cela. Et le fait de venir aussitôt permet de faire un bilan prénatal le plus tôt possible et agir sur les éventuelles maladies ou anomalies qui peuvent se présenter après avoir fait effectuer le bilan. On agit à temps et on est sûr que la grossesse va évoluer d'une manière normale jusqu'à la fin. Et or, quand les femmes arrivent, peut-être une femme comme le cas que je venais d'énoncer, elle arrive au troisième, au dernier, à la dernière CPN. Et là, on l'a vue une seule fois. C'est une femme qu'on peut dire qu'on ne la connaît pas. Parce que quand elle vient dès le début, on essaie de détecter ses problèmes et savoir comment la prendre en charge jusqu'à l'accouchement. Pendant l'accouchement, quand on la connaît bien, on connaît aussi certaines dispositions qu'on peut prendre pour éviter. Pour éviter le danger.
Vous avez parlé de 4 visites prénatales qu'une femme devrait avoir avant l'accouchement. Est-ce qu'il y a une périodicité?
Bon, parlant de périodicité, la première visite, dès que la femme pense qu'elle est enceinte, elle doit déjà venir à l'hôpital pour qu'on fasse même déjà un test de grossesse, qu'on fasse la première échographie pour savoir. Est-ce que pour localiser, est-ce que l'enfant est bien inséré dans l'utérus? Parce qu'il y a les grossesses extra-utérines que lorsqu'on n'a pas détecté à temps, ça devient une catastrophe à la fin. Parce que quand ça va se rompre, elle va perdre le sang et puis parfois elle va même perdre sa vie. Elle revient au deuxième trimestre pour qu'on essaye de faire les bilans. On a fait les bilans au premier trimestre, elle revient au deuxième trimestre. On continue avec les bilans appropriés pour le deuxième trimestre. Et on refait aussi une échographie pour voir la morphologie de l'enfant. Ça, c'est la deuxième CPN. La troisième, elle va venir vers 7-8 mois. Ça, c'est la troisième visite. Elle vient à 8 mois. Là aussi, on essaye d'évaluer la croissance. Est-ce que l'enfant évolue bien? Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie? On regarde, on observe, on fait les bilans de ce trimestre-là. Et elle doit aussi revenir en fin de grossesse. En fin de grossesse, c'est même plus très important parce que c'est là où tout se décide. On décide du mode d'accouchement, on regarde en évaluant comment l'enfant est positionné dans l'utérus. Est-ce que l'accouchement sera facile? Est-ce que l'accouchement sera favorable? Tout ça là. Est-ce que l'enfant est très gros? Est-ce que l'enfant est petit? Est-ce qu'il pourra passer librement? On essaye d'évaluer. Et à partir de là, on essaye d'éliminer beaucoup de risques qui peuvent arriver. Elle fait une dernière échographie où on se rassure qu'il n'y a pas une circulaire autour du cou de l'enfant qui peut l'empêcher de sortir au moment de l'accouchement. Au cas échéant, on l'envoie faire, on la programme pour une césarienne pour qu'elle n'entre pas en travail et que l'enfant soit étranglé lorsqu'il sort lors de l'accouchement. Donc, c'est à peu près ça, les 4 visites. Et maintenant, il peut y avoir d'autres visites. En cas de besoin, lorsqu'on a un problème différent, ça dépend. Maintenant, on parle de CPN recentré. Si la femme a un problème particulier, on peut lui donner aussi d'autres rendez-vous.
Justement, une fois qu'une femme enceinte a suivi toutes ces étapes du suivi prénatal, arrive le moment de l'accouchement. Ça se passe comment? Comment est gérée justement la phase de l'accouchement dans vos formations sanitaires?
Bon, lorsque la femme arrive généralement, on la reçoit, on l'examine et puis si l'accouchement n'est pas encore imminent, on la mène dans la salle de travail où on doit la suivre et suivre l'état du fœtus, évaluer l'état de la mère toutes les 30 minutes. Il y a l'évaluation qu'on fait toutes les 30 minutes. Il y a l'évaluation qu'on peut faire toutes les 2 heures de temps. En fait, on la suit jusqu'à ce qu'elle accouche. Et maintenant, pendant qu'on la suit, on essaye de voir est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du fœtus, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la mère. Quand il y a moins de pépins qui se signalent, soit on refait la femme vers une structure plus appropriée pour une meilleure prise en charge, Soit si on est dans une structure où on peut mieux la prendre en charge, on appelle le supérieur. Ça peut être un gynécologue, ça peut être le médecin, ça peut être le chirurgien. On l'appelle pour qu'il vienne intervenir immédiatement, pour que à la fin, que la vie de la mère et de l'enfant soit sauvée. Parce que c'est ça le but.
Il y a des idées négatives sur la pratique des césariennes dans nos formations sanitaires. Dans quelles circonstances fait-on recours à la césarienne? Est-ce que c'est toujours vraiment le dernier recours? Parce qu'il y a des idées comme quoi ce serait devenu une pratique mercantiliste.
C'est ce qui nous revient toujours et toujours de la communauté. La communauté pense que on fait la césarienne parce que on veut se faire de l'argent. Oh, vraiment, c'est loin de là. Je ne pense pas que quelqu'un peut décider d'amener une femme au bloc juste par fantaisie. Sinon, la césarienne, c'est souvent le dernier recours. Parce que soit la vie de la mère est en danger, soit la vie de l'enfant est en danger. Oh, l'objectif de la sage-femme, c'est de sauver des vies. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Ça, c'est le slogan des sages-femmes. Donc, quand on se retrouve à dire que on envoie les femmes, parce que c'est la sage-femme qui est au chevet de la femme enceinte. C'est elle qui suit, c'est elle qui alerte, qui fait l'alerte quand il y a un problème. Quand il y a un problème, déjà, il faut opérer, il faut aller au bloc. C'est elle qui signale au chirurgien que ici, là, il y a un problème et puis il faut qu'on l'amène au bloc. Vraiment sans une autre intention. Ça peut arriver, elle refuse et puis elle accouche un enfant qui va peut-être après souffrir, tout ça là. Un enfant qui a beaucoup souffert, qui sort même parfois, qui ne respire pas, qui ne crie pas, parfois un mort-né. Ça sont les conséquences qui arrivent souvent.
Il est aussi fréquent de voir des femmes qui, une fois sorties de l'hôpital après l'accouchement, n'y retournent plus. En quoi consiste le suivi postpartum et quels sont les risques en cas de non-observance de ce suivi, aussi bien pour la mère que pour le bébé?
Oui, je dirais encore merci pour cette question. Le suivi postpartum est capital parce que le tout n'est pas de faire l'accouchement et de laisser la mère s'en aller comme ça. À notre niveau, à l'hôpital même, on nous recommande de garder la femme pendant au moins 6 heures de temps. Or, dans notre région, on constate qu'il y a beaucoup de mentalités qui ne nous permettent pas d'appliquer cela. Parce que dès que le mari est venu laisser sa femme à l'hôpital, il est rentré. Dès que le téléphone sonne et qu'on lui dit elle a accouché, sa première réaction, c'est de venir prendre sa femme et rentrer à la maison. Sous prétexte, il n'y a personne pour s'occuper des enfants, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Or, si la femme n'avait pas accouché, elle ne serait pas rentrée. Et les enfants seraient toujours à la maison seuls. Or, on le recommande de faire un suivi de postpartum. On demande de faire 6 heures de temps parce que c'est un suivi immédiat, postpartum immédiat. En dehors du postpartum immédiat, qui est 6 heures de temps, on doit prendre les paramètres de cette femme pendant les 6 heures à une fréquence donnée. Maintenant, quand on se dit qu'elle est hors de danger, il n'y a aucun risque, on peut la libérer. Après 6 heures de temps, elle peut être libérée. Et généralement, on a recommandé cela parce qu'on s'est rendu compte que dans nos maternités, il y a un problème d'espace. Parce que réduire jusqu'à 6 heures, c'est vraiment une mesure qu'on a prise comme ça, parce qu'il y avait un problème d'espace qui se posait. Selon les recommandations, une femme doit faire au moins 48 heures de surveillance après l'accouchement. Mais on se dit, après 6 heures, quand même, si on se dit, on évalue, on voit qu'elle ne saigne pas, elle n'a aucun signe de danger, on peut faire rentrer la mère. Si l'enfant n'a aucun problème, il n'a aucun problème physiquement ou je ne sais pas. On peut faire rentrer les patients. Mais on est vraiment confronté. On n'arrive même pas à appliquer les 6 heures là, dans notre région. Parce que à peine la femme est descendue de la table, elle veut déjà rentrer.
Au-delà de ces 6 heures de suivi, vous avez dit suivi postpartum immédiat, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rendez-vous qui sont tout aussi vitaux et importants, tant pour la mère que pour le bébé, et que les parents devraient veiller à respecter?
À la sortie de la maternité, par exemple, on doit demander, en fait, après avoir fait un bon counseling à la mère, on lui demande de revenir déjà pour le premier vaccin, si le vaccin-là n'était pas disponible au moment de l'accouchement, le BCG, la polio qu'on doit donner à la naissance et tout et tout. On lui donne un rendez-vous. Et c'est pendant ce rendez-vous même que généralement on profite aussi pour faire la consultation postnatale. La première consultation postnatale se fait pendant qu'elle est encore à l'hôpital. on lui donne, elle vient pour la deuxième consultation postnatale. Ça, c'est généralement dans les 6 jours, 6 jours après. Parce que la première consultation postnatale est immédiate. Pendant les 6 heures, on la suivait. 6 heures, 6 jours et 6 semaines. Ça, c'est les consultations postnatales. Et quand ils viennent à ces consultations postnatales, on essaye de prendre les paramètres de la mère, le poids, la tension, la température. On voit s'il n'y a pas d'anomalie du côté de la mère. On examine le nouveau-né. Est-ce qu'il prend bien le poids? Est-ce qu'il s'alimente bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci par rapport à l'enfant? C'est ça aussi notre devoir. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accoucher et de les laisser rentrer comme ça, sans un suivi. Il y a un suivi vraiment. Sauf que, généralement, les femmes ne respectent pas toujours cela.
Merci. Tout ce que vous avez dit depuis l'entame de cette émission est très, très important pour nos différents auditeurs. Si on vous demandait de faire un tout petit résumé de tout ce processus, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil succinct à nos auditeurs?
Bon, s'il y a un conseil à donner, c'est de dire à nos chers auditeurs, la grossesse n'est pas une maladie, déjà d'un, mais la femme enceinte doit être suivie d'une manière particulière. Du moment où elle pense qu'elle est enceinte, elle doit déjà vite se rendre dans une structure sanitaire. Parce que plus vite on détecte ses problèmes, plus vite on la prend en charge et c'est pour le bien de tout le monde.
À l'entame de cette émission, vous avez évoqué quelques pesanteurs qui empêchent les femmes à recourir systématiquement au service de maternité. Quel message pouvez-vous adresser à ces personnes-là pour que justement les femmes soient systématiquement amenées à recourir au service de maternité lorsqu'elles sont enceintes?
Bon, ce que je dirais, c'est juste, il faut que nos chers papas et nos chers grands frères qui sont les époux de ces femmes sachent que ils doivent savoir que la femme enceinte, quand une femme est enceinte, c'est un cadeau précieux à qui on doit accorder une attention particulière. Elle doit être bien suivie. L'un des buts du mariage, c'est d'avoir une progéniture. On a envie d'avoir une progéniture et qu'on ne fait pas des efforts pour cela. En les envoyant se faire consulter pour qu'elles soient toujours en bonne santé et qu'elles accouchent des bébés aussi en bonne santé, on court des risques. Une femme qui est suivie, par exemple, on prend le cas, il y a beaucoup de cas où les femmes arrivent toujours tardivement. Une femme peut-être séropositive, les cas particuliers, qu'on aurait dû agir en amont pour éviter que l'enfant la sorte étant aussi contaminé. On se retrouve en train de prendre en charge cet enfant, en train de découvrir cela peut-être seulement à la naissance. Ce n'est pas bien. Parfois, venir seulement en cascade quand il y a les problèmes, parfois c'est tard. À l'hôpital, ce que je veux dire, c'est que nous, on est là pour ça. On a été formé pour ça. Que ce soit l'homme ou la femme qui se retrouve devant votre femme, elle ne serait pas là si elle n'avait pas reçu une formation adéquate pour cette prise en charge. Donc, ils doivent nous faire confiance, amener leur femme sans arrière-pensée. C'est un travail qu'on a appris et on est là juste pour le bien de la femme, de la famille, en fait, de la communauté.
D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'une des solutions qu'on pourrait envisager pour justement vulgariser, inciter au recours au service de maternité par les femmes serait peut-être d'implémenter les unités mobiles de consultation prénatale comme cela est le cas dans certains pays sous-développés? Est-ce que vous pensez qu'une pareille solution pourrait être opérante dans notre contexte ici à l'extrême nord?
Chez nous, on parle de stratégies avancées. Ce sont des choses qui se pratiquent même déjà dans notre région. Donc, une équipe se déplace vers un village reculé où l'accessibilité au centre de santé n'est pas du tout facile. On se rend là-bas et avec un calendrier bien défini. Avec l'aide des agents de relais communautaires, qui partent souvent sensibiliser, on s'en va consulter les femmes là-bas. Donc, il y a des jours où on se déplace vers la population. C'est vrai, on ne le fait pas encore dans tous les villages, mais on a ciblé quand même certains villages où on se déplace. Je pense que dans tous les districts de santé de la région, ça se pratique déjà.
Alors, Monsieur Lekpa, qu'en est-il de l'accessibilité des services de maternité au regard du faible niveau de vie des populations dans notre région? Est-ce que les prix qui sont pratiqués sont accessibles à tous dans toutes les différentes phases que vous avez décrites?
Si je prends l'exemple du CMA de Gazawa, la consultation prénatale, par exemple, coûte 1000 francs. Et il arrive qu'on consulte la femme même plus de 6 fois dans les 1000 francs. Et lorsqu'elle arrive avec ses 1000 francs, il y a beaucoup de choses qu'elle reçoit même en retour gratuitement, que l'État a mis à sa disposition. Par exemple, le traitement préventif du paludisme, on donne ça. Dès que l'enfant bouge dans le ventre de la mère, on commence à lui donner cela. Et après chaque visite, donc à l'intervalle d'un mois, quand il revient, on lui donne ça. Ça prévient contre le palud. On lui donne du moustiquaire. Et aussi, même dans les districts qui ont le chèque santé, il y a beaucoup d'autres choses qu'on donne. Quand il paye 6 000, par exemple, pour faire ses visites, son accouchement, même si c'est la césarienne, on prend dans les 6 000. Et déjà, et même jusqu'au postpartum, quand il revient même pour les visites du postnatal, c'est dans les 6 000. Donc, je ne pense vraiment pas que ce soit un problème de finances, un problème d'argent. Je pense plus que c'est un problème de mentalité.
Pour sortir de notre entretien de ce jour, lorsque nous préparions cette émission, il y a des professionnels de la santé qui nous ont rapporté que certaines femmes qui accouchent en dehors des formations sanitaires reviennent souvent vers vous pour solliciter des déclarations de naissance, afin d'enclencher le processus de délivrance de l'acte de naissance de leurs enfants. Alors, comment vous réglez ce pareil cas quand il se présente à vous?
Merci pour avoir évoqué ce problème qui est encore une autre particularité dans notre région. On accouche beaucoup et on déclare moins. On s'est rendu compte que les femmes accouchent, mais elles ne se soucient pas de l'acte de naissance. Peut-être parce qu'elles ne savent pas l'importance de cet acte. Mais pour les femmes qui accouchent même à domicile, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un problème vraiment qui mine notre société. On se retrouve, lorsque les enfants veulent composer le CEP, avoir des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. On vient faire les certificats d'âge à parents et tout, à beaucoup d'enfants. Nous avons décidé au niveau du centre médical d'arrondissement que la femme ait accouché à la maison ou à l'hôpital, on essaye de déclarer. En principe, l'État nous autorise à déclarer les naissances faites à l'hôpital. Mais on a été clément par rapport à cela, et juste pour aider ces enfants qui naissent sans acte de naissance. Mais jusque-là, vraiment, on a un faible taux de déclaration de naissance, très faible.
Merci, Monsieur Lekpa. Merci d'être passé dans nos studios. Nous vous disons merci vraiment pour le temps que vous avez pris pour venir éclairer la lanterne de nos auditeurs. Merci.
Merci, c'est un plaisir pour moi. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et je n'hésiterai pas de revenir si jamais vous avez besoin de mes
OK,
services.
merci beaucoup. Chers amis auditeurs, c'est ici que s'achève votre émission Santé pour tous, au cours de laquelle nous avons abordé la problématique de l'accès aux services de maternité dans les formations sanitaires ici à l'extrême nord. Mais avant de nous quitter, nous remercions l'équipe technique qui nous a assistés pour cette émission. Au micro, c'était votre humble serviteur, Steve Phoebe. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine et surtout ne l'oubliez pas, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. À très bientôt.